avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce numéro 896 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Perpignan, par exemple, sur 103.2 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le Vino Quiz pour gagner des cadeaux. On joue sur invinoradio.tv, l'appellation Pic Saint-Loup dans le Languedoc. Et puis la réponse à une grande question, les journalistes du vin sont-ils crédibles ou au contraire achetés? Voilà, on en parlera tout à l'heure. Y a-t-il des pourris chez les journalistes du vin? Voilà, bonjour à tous les cinq. Qui sont les cinq? Hélène Piau, François Biébert, Fabien Humbert, David Cobol et Philippe Orbach. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Alors prêt, parce qu'on a quand même un débat sur la déontologie des journalistes.
Hein. C'est très bien.
Grâce à vous Fabien. Alors pour commencer cette émission Invino Sud Radio, on retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et des spiritueux, pour une appellation qu'on aime beaucoup, les Creux Hermitage, avec un zoom sur le millésime 2017.
Oui, c'était une occasion récente qui m'a été proposée d'aller goûter 34 vins du millésime 2017 issus de l'appellation Creux Hermitage. Et pour rebondir au sujet dont on va débattre tout à l'heure avec Fabien, j'avais accepté à cette occasion un déjeuner. Donc, pour être clair là-dessus...
Quel était le montant de l'addition?
Pour être clair là-dessus...
C'était un étoilé ou pas?
C'était... je crois qu'il avait une étoile, mais moi, j'ai souffert d'un empoisonnement gastrique le soir même. Donc, je ne sais pas si je vais y retourner.
Ça vous voulez donner le nom ou pas?
Oui, pourquoi pas, Vertus, mais je ne sais pas si c'est de leur faute.
Ah, d'accord.
Mais j'ai un principe très clair.
Il y avait des épidémies de gastro à l'époque.
Oui, mais c'était radical et c'était le soir même. Et c'était, bon,
il bon, n'y a pas autre chose qu'un petit problème personnel digestif?
Non, mais
allez, on y va,
bon,
continue.
Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, ma politique par rapport à ça, c'est que je n'accepte les déjeuners, les dîners ou des voyages que s'il s'agit d'un groupe, c'est-à-dire une appellation, un groupe de producteurs, un ensemble, mais pas un seul vigneron.
D'accord.
Il faut bien mettre la ligne rouge quelque part.
On en parlera tout à l'heure avec Fabien.
Votre
honneur, David.
C'est quand même intéressant quand on considère les Côtes-du-Rhône du Nord, ça représente 6% de tous les vins de la vallée du Rhône en France. Donc c'est peu. Les vins de la vallée du Rhône en France représentent 12% de la production française. Autrement dit, les vins du Côtes-du-Rhône du Nord dans leur ensemble, les 8 appellations, je crois qu'il y en a 8, représentent 0,05% des vins de France. Or, ils ont une puissance médiatique, une couverture médiatique et une image de prestige et de qualité tout à fait justifiée par ailleurs, qui est bien au-delà de ces pourcentages. Comme quoi, c'est assez intéressant et je pense que quelle est la responsabilité quand on analyse cette affaire-là? Je pense que le cépage Syrah, qui après tout est né dans cette région, parce que c'est sur un croisement entre le Duraisa, vieux cépage ardéchois, et la Mondeuse Blanche, cépage de l'Isérois et de la Savoie, qui est né très certainement dans cette vallée du Rhône et qui a fait le succès de cette région dans sa globalité. On pourrait rajouter le Viognier, mais à bien moindre degré, parce qu'il y a beaucoup moins d'hectares. Alors, dans les appellations des Côtes-du-Rhône du Nord, qui sont tout petits tous, Creux Hermitage est le plus grand, ça fait un peu plus de 1000 hectares, 1100 hectares et quelque chose comme ça. Donc il y a beaucoup de vignerons qui sont aussi présents sur la colline très prestigieuse d'Hermitage, qui ne fait qu'une centaine d'hectares. Et là, ils étaient presque tous présents pour présenter le dernier millésime qu'ils ont mis en vente, le millésime 17.
On a les deux couleurs, David, sur en cause?
Alors, là, ils n'ont présenté que du rouge, pour être simple. Et je tiens à tirer mon chapeau envers eux, parce qu'ils sont venus malgré les grèves. Ils sont venus en voiture ou en train, selon. Moi, j'ai traversé Paris à pied pour y aller. Donc, on a été beaucoup à avoir accepté cette déjeuner précédé par une dégustation. Pour moi, le plus important, c'est la dégustation. Ouais. C'est pas le déjeuner. Je suis resté parce que j'avais encore 7 km à faire l'après-midi.
Pour répondre à votre question, on fait du blanc aussi dans l'appellation.
On fait du blanc.
On ne fait pas de rosé.
Alors, le rouge est fait uniquement avec la Syrah, mais avec, comme souvent dans ces appellations-là, la possibilité d'adjoindre 15% de cépage blanc.
D'accord.
Dans le vin rouge, qui sont Marsanne ou Roussanne en ce qui concerne Creux Hermitage. Les blancs, c'est fait avec ces deux cépages, Marsanne et Roussanne. Alors, le millésime, j'ai toujours du mal à me prononcer sur la qualité moyenne d'un millésime. Les cartes de millésime ne me parlent que très peu, mais c'est un bon millésime. Je ne sais pas si c'est un grand millésime. L'avenir nous dira, il faut attendre l'apogée, parce qu'on en est très loin. C'est des vins qui ont une bonne capacité de garde, hein, 5 à 10 ans, voire 15 ans pour les très grands. Alors... si on parle de l'ensemble des autres appellations autour, j'ai déjà cité Hermitage. Donc, Creux Hermitage et Hermitage sont les deux seuls sur la rive gauche. Il y aura peut-être un autre un peu plus au nord, parce que le dossier est en cours d'instruction, qui s'appelle Sessuel. Autour de Sessuel, il y a pas mal de bons vignerons du coin qui ont planté de la vigne, qui ont ressuscité une très ancienne ville qui date de l'époque romaine. Sur la rive droite, on a une succession d'appellations, partant de Côte-Rôtie, mais avec aussi deux appellations en blanc, Condrieu et son extension, parce qu'au fait, c'est un Condrieu bis, si on veut, château grillé, mais qui a une seule appellation pour un seul propriétaire, qui aujourd'hui est M. Pinault. Et ensuite Saint-Joseph, Cornas et Saint-Péré, toujours sur la rive droite. Voilà l'ensemble des Côtes-du-Rhône du Nord. Alors, ces vins issus essentiellement de Syrah, comment sont-ils ? Je trouve que l'évolution en style, ça reflète un peu ce que j'ai souhaité dans la dernière émission, c'est-à-dire que des vins ont plus de finesse, plus de délicatesse et moins d'effet de masse que par le passé. Et ça s'est avéré dans ce millésime 17, les vins que j'ai préférés, et je vais les citer, avec cette caractéristique, à la fois de fraîcheur qui vient des Syrah du Nord, ça, on est quand même un peu à la limite de la production de Syrah, mais aussi une texture plus suave que par le passé. Souvent, le Syrah peut être assez rugueux dans sa jeunesse. C'est un cépage tannique et acide. Les deux combinés exaltent l'effet du tannin.
Donc, ça veut dire, David, qu'il commence à s'assouplir un peu au bout de combien de temps ? 3, 4, 5 ans ?
Eh bien, il faut leur donner au moins ça. D'accord. Je pense.
Alors, c'est un facteur de longévité, d'ailleurs. Acidité et tannin, c'est souvent des facteurs de longévité.
C'est des facteurs de longévité, mais c'est aussi un effet contraire pour les bois jeunes.
Bien sûr, au début, c'est pas vrai.
C'est plutôt un repoussoir quand les vins sont
même frais.
Bon. Donc, les vins que j'ai vraiment beaucoup aimés, domaine Aléophane, c'est Natacha Chave qui fait ce vin-là. Domaine Yann Chave, donc encore un Chave. Domaine du Colombier, domaine Combier, magnifique. Domaine des Entrefaux, c'est un vieux favori avec moi, avec une cuvée qui s'appelle L'Épande. Domaine Mussine, les Entrecoeurs, et domaine François Villard, une cuvée s'appelle Certitude. Les prix de fourchette pour tous ces vins, entre 15 et 22 euros.
Oui, donc c'est vraiment raisonnable,
donc c'est vraiment des bons vins, mais il faut les attendre un peu.
Merci beaucoup David Cobold. InVideo sur Radio retrouve François Bieber, fondateur et président de Quanco. Quelques coups de cœur peut-être sur les vins. Vous êtes très Bourgogne aujourd'hui, hein?
Oui, alors je suis aussi un grand amateur de Côte-du-Rhône septentrionale, mais aujourd'hui j'avais envie de partager...
On remonte un peu.
Voilà, de remonter un peu plus au nord et de partager des dégustations que j'ai eu l'occasion de faire, parce que j'ai fêté les 20 ans de mon fils, donc c'était l'occasion de sortir deux belles bouteilles, dont un magnum de Claude Tarr 99.
Waouh.
La cave est belle, hein. Vous donnez l'adresse après?
Oui, l'adresse peut-être, mais pas le code, David.
Il en reste encore quelques-uns, mais c'est pas sur Paris, parce que j'ai pas envie de me la faire voler.
Mais, alors voilà. Il commence, donc déjà en magnum, c'est déjà bien, 99, c'est une belle année aussi en Bourgogne.
Moi j'ai trouvé que c'était un vin qui était vraiment la pleine maturité, extrêmement agréable à boire, très fin. Voilà, il avait bien vieilli, il était devenu vraiment extrêmement soyeux, tout en gardant une très très
encore
belle longueur en bouche.
Et voilà, selon vous, il aurait pu que vivre encore un peu plus cette bouteille, ou selon vous, y aller ? Perception d'amateur ?
Alors moi, en ce moment, c'est un peu une évolution de mon goût. J'ai été éduqué par mes parents à boire des vins très très vieux, et j'ai une évolution de mon goût. Je préfère laisser un peu moins vieillir mes vins. C'est-à-dire, je trouve que au-delà de 12-15 ans, il faut vraiment que ce soit un vin qui soit
donc
adapté,
l'apogée quoi. Pour vous en ce moment, c'est plutôt de 10.
Il était parfait à boire, mais il ne faut pas le garder beaucoup plus longtemps.
99, Philippe Forbach, c'est une bonne année en Bourgogne ou pas ?
Grand millésime bourguignon.
Grand millésime bourguignon. Magnum,
en plus, c'est un vrai bonheur.
En revanche, s'il faut quand même mentionner ça, c'est que moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter à un prix raisonnable il y a maintenant 20 ans.
Combien ça vaut maintenant un magnum de 99 en Claude Tarr, quand on en trouve ?
Alors, j'ai regardé un magnum de 2017, je crois que ça coûte 1200 euros.
1200 euros, on arrive sur des prix. Alors après, c'est vrai que le domaine a été vendu récemment, hein, quand même, à un prix supérieur à 33 millions d'euros l'hectare. 33 millions d'euros l'hectare, on arrive sur des choses qu'on peut difficilement s'offrir maintenant, parce qu'à 1000 euros la bouteille, c'est cher quand même, François.
C'est inabordable. J'ai pas de bouteille récente dans ma cave, mais j'ai eu la chance de pouvoir les acheter à un prix qui était largement 10 fois moins cher, donc là, ça devient acceptable.
Bon, en tout cas, qualitativement, 19 sur 20, vous êtes régalé ?
Ah oui, c'était exceptionnel.
Deuxième découverte ou retrouvaille, quoi, du côté de Chambertin, Hospice de Nuit, vous êtes où ?
Les deux, Chambertin et Hospice de Nuit. Alors sur Chambertin, en fait, c'est un vigneron qui avait plutôt mauvaise réputation, parce que les vins de chez Camus et Frères étaient... Enfin, c'était pas dans le top de l'appellation, quand même. Faut être assez honnête. Si on regarde les vieilles bouteilles, elles sont souvent assez déconseillées à l'achat. Mais là, c'est un ami qui m'a offert cette bouteille-là. Elle est plutôt sympathique, comme ami.
Oui.
Et j'ai trouvé, finalement, que le vin était à un niveau qualitatif bien supérieur à ce à quoi je m'attendais de la part de ce vigneron-là.
Sur quel millésime, vous dites ?
C'était un 2014.
D'accord.
Donc un Chambertin Grand Cru 2014. Et j'ai été absolument surpris par l'amélioration qualitative de ce vigneron, qui fait un vin de très belle facture. Alors en plus, comme c'est une bouteille qu'on m'a offerte, je ne connais pas exactement
le prix. Quoi, ouais.
Mais bon, en cherchant un peu sur Internet, j'ai vu qu'on était quand même déjà dans des prix très élevés aujourd'hui, puisqu'on est aux alentours de 120-150 euros.
Oui, c'est quand même pas... C'est très, David Chobol, quand on a un 2014, comme François a dégusté, il faut ouvrir la bouteille longtemps, pas longtemps avant de déguster. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, David?
Honnêtement, ça dépend tellement de chaque vin que c'est très difficile de généraliser. Souvent, si le vin est jeune, si on veut généraliser un peu, plus le vin est jeune, plus il va bénéficier d'un carafage et d'une bonne aération. Donc, ça ne sert strictement à rien d'ouvrir la bouteille simplement et laisser... parce que la surface de contact, c'est le diamètre intérieur du col.
D'accord.
Autrement dit, qu'il va se passer quand même pas mal d'années avant que le vin soit aéré. Ouais. Donc il faut le mettre en carafe.
Si on l'ouvre, carafe, c'est ça?
Voilà. Pour les vins jeunes. Pour les vins vieux, c'est plutôt le contraire.
François, donc là, vous l'avez dégusté avec une viande, avec quel type de plat?
Alors c'est une colle, je ne me souviens plus avec quoi j'ai dégusté. Je me souviens bien du vin.
Du vin, mais
je crois que c'était un magasin.
On salue votre épouse qui cuisine très bien.
Vous vous souvenez avec qui?
Je me souviens avec qui, c'était avec des très très bons amis. On a passé un excellent moment.
Bon, un troisième coup de cœur peut-être?
Un troisième coup de cœur. Je vais parler plutôt d'un vigneron, parce que c'est par son intermédiaire que j'ai pu acheter l'hospice de nuit, mais je vais parler du château de Melun, qui est en fait un couple d'amis, donc Arnaud et Hélène de Rat. Et si vous voulez passer un week-end en Bourgogne pour aller un peu visiter, ils ont bien évidemment un très très beau vignoble et ils ont un accueil et un domaine qui est extrêmement intéressant. Ils ont entièrement passé en biodynamie, mais ils font aussi chambre d'hôte et donc ça permet de passer un très très bon moment. Le cadre est absolument magnifique.
Ils sont basés où exactement?
Ils sont basés à Auxey-Durès.
Oh, c'est une belle
ça
région.
Permet d'être un petit peu moins modéré.
Ouais.
Et donc effectivement, ils ont aussi dans leur vin un Gevrey Chambertin et puis un Chambonusini qui sont là pour le coup à des tarifs nettement plus abordables par rapport
c'est-à-dire à... C'est-à-dire autour de combien?
Aux alentours de 25-30 euros la bouteille.
Ah oui, c'est
ce
très raisonnable.
Tout à fait.
Bien sûr, pour des grands vins.
Là, voilà. Pour de beaux Bourgogne. Dans le village, pas dans les premiers crus ou les grands crus.
Non, on n'est pas dans les grands crus, mais dans on est...
Voilà,
c'est très bon.
Sur le Gevrey Chambertin, si on est en grand cru. Hein,
ah oui.
Oui, oui. Donc c'est très bon et c'est un excellent rapport.
Ça ne s'appelle pas Gevrey Chambertin à ce moment-là.
Oui, c'est vrai.
Bon, David Cobol, arrêtez de jouer à l'anglais.
Mais quand même,
vous avez tout à fait raison.
Donc voilà, c'est donc pas leur intermédiaire que j'ai pu acheter un hospice de nuit 2003 qui a été exceptionnel.
Merci beaucoup François, ça y est, on va déguster avec modération, mais grâce à vous, on est plutôt une bonne partie en Bourgogne. On se retrouve dans un instant au caviste Nicolas à Paris pour le Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec le charmant sourire d'Hélène Piau et le Vino Quiz.
Je vous en rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau. Cette semaine c'est le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La semaine dernière, la question était sur combien d'hectares sont répartis les vignobles du domaine du château Caraguille. Réponse A, 135. Réponse B, 500. Réponse C, 999.
Et la bonne réponse, Hélène
Ça faisait beaucoup. Hein. C'était la réponse A, 135 hectares.
Ce qui est pas mal déjà.
Voici la question de ce week-end. Comment se nomme le domaine de Stéphane Baye? Réponse A, domaine de la menuiserie. Réponse B, domaine de la meunerie. Réponse C, domaine de Trouillasse. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Vidéo Sud Radio retrouve à présent Fabien Imbert, journaliste pigiste pour la revue du Vin de France, pour nous parler notamment de la déontologie des journalistes. Waouh, vaste sujet comme dirait l'autre. Hein.
Mais oui, je ne sais pas si je vais me faire que des amis. Je pense qu'il y a un petit problème en ce moment sur le journalisme du vin, le journalisme en général, parce que je ne veux pas jeter la pierre qu'au journalisme du vin. En fait, je me retrouve assez souvent devant des questionnements, des choix déontologiques, et finalement, je n'ai pas de référence, j'ai pas de règles. C'est pour ça que je milite pour qu'il y ait une charte des vins, une charte des journalistes des vins et spiritueux. Alors, je vais vous donner quelques exemples de questionnements auxquels j'ai à faire face. Par exemple, dois-je réceptionner ce cadeau de fin d'année d'une valeur de 180 euros, c'est une bouteille de champagne, que la marque m'a envoyé, je cite, pour me remercier de ma fidélité. Mais en tant que journaliste, je n'ai pas à être fidèle, j'ai juste à faire mon travail. Et si les gens ont été interviewés, c'est que ils devaient être dans l'article. Voilà, ils le méritaient.
Ouais. Donc vous prêchez la fidélité, c'est bien, c'est noté.
C'est ça. En tout cas pour le vin, il faut tout goûter. Ensuite, on m'a envoyé une référence en double, voire carrément une caisse de 6. Une caisse de 6 bouteilles.
6 bouteilles identiques.
Oui. Alors qu'est-ce que je fais des doublons? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les renvoie? Est-ce que je les partage avec mes collègues ou est-ce que je les revends? je ne sais pas.
Mais c'est une vraie question.
Les données, une association humanitaire.
On va réagir après.
Alors, sinon, on m'a demandé plus ou moins fermement. Alors, quand je dis on, ça peut être aussi d'autres collègues, parce que.
Bien sûr.
De parler de tel ou tel annonceur dans un article. Est-ce que j'accepte parce que ce serait, je cite, bon pour la survie du média, ou est-ce que je me drape dans ma déontologie?
C'est un beau quiz, ça. Hein.
Alors, on me propose maintenant un voyage de presse, tout frais payé, dans telle ou telle région, avec un passage au spa. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je suis tenu de parler de la marque qui m'invite? On m'invite maintenant dans un restaurant.
Est-ce que vous êtes obligé de passer au spa aussi,
David? C'est terminé, Fabien.
Non, mais c'est, en plus, ça, c'est, ça m'est vraiment arrivé et je ne suis pas allé au spa.
Vous avez une très jolie peau. Continuez, ouais. Fabien.
Ouais. Donc, on m'invite dans un restaurant. David, ça va vous faire plaisir. Doublement ou triplement étoilé. Dois-je y aller, sachant que ce repas est hors de prix? Là encore, est-ce que je suis tenu de parler de la marque qui m'invite? Alors, on va aller un peu plus loin. Une marque de champagne m'invite pour 3 jours au ski pour, je cite, tester la dégustation de champagne en altitude. Alors, est-ce que je fonce tout chousse dans ce prétexte vaguement journalistique? Bon, moi, j'y vais pas, mais il y en a qui y vont. Ouais. Donc, ce vigneron bordelais m'invite à assister en loge à un match de rugby de l'Union Bègles-Bordeaux. Et bien sûr, il me paye l'aller-retour Paris-Bordeaux. Est-ce que j'accepte?
Oh, pour rencontrer le président Marty, ça peut être sympa.
Mais y a,
c'est une question d'actualité, ça.
Alors, ce vigneron m'a accueilli chez lui, il m'a fait rencontrer sa famille, j'ai dîné à sa table, j'ai dormi chez lui.
Bon. J'ai épousé sa fille. Voilà. On a fait une totale, là.
Je suis devenu ami avec lui. Est-ce que je peux toujours écrire sur lui?
Ah ouais, c'est une
question. C'est plein de questions comme ça. Peut-être un dernier.
Oui, une question, une exemple. Voilà.
Donc je pense souvent aux annonceurs qui de plus en plus, c'est des collègues qui m'ont dit ça, des collègues qui leur ont mis une mauvaise note donc sur un vin ou qui ont sorti une affaire qui ne leur a pas plu. Et bien, ces annonceurs maintenant arrêtent de payer des pages de pub, que ce soit à la radio, à la télé ou dans les journaux. Donc une charte, ça pourrait aussi aider les journalistes à tenir tête à ce type de,
oui, voilà, de pression.
Un directeur général qui est... Ouais,
ce dont j'ai parlé, ça existe ailleurs. Ce n'est pas généralisé dans le milieu, mais je pense que d'avoir une règle claire, ça nous aiderait en tout cas à savoir
bonne
quoi
question.
Faire.
On va en parler alors. Juste avant d'arriver sur le vin, François Biebert, donc vous êtes le patron de Quanco. Un petit mot dans votre métier, là, dans la technologie, tout ça. Il y a cette même problématique de journalistes un peu pourris, véreux, ou alors des gens bien comme Fabien qui se posent des questions?
Moi, mon métier, c'est celui il y a de la technologie, mais oui, du marketing digital et donc de la publicité. Donc, toutes ces questions-là, effectivement, sont des questions auxquelles on doit faire face. Alors, des journalistes, moi, j'ai un très, très bon exemple. C'est que ça m'est arrivé de faire des interviews avec des journalistes français. Et là, ils allaient dans un très, très bel endroit. C'est eux qui fixaient le rendez-vous. Ils s'empiffraient avant et ils partaient sans payer quoi que ce soit, sans même dire quoi que ce soit, ils partaient et je devais payer l'intégralité de la
quelques
note.
Quelques noms là, journaliste pourri?
Non, je ne vais pas dire ça, mais j'ai eu aussi une interview avec un journaliste anglais d'un journal anglais et on a fixé un rendez-vous dans un hôtel tout à fait simple pour faire l'interview et il m'a dit, moi, nous, on a les moyens de se payer un petit déjeuner.
Et il a payé son petit déj.
Bien sûr. C'était chacun de ses.
Allez, on réagit parce qu'il ne faut pas de fausse barre, pas de langue de bois non plus. Hein, parce que voilà, donc on a tous eu des cadeaux, on a tous dit oui. Donc,
moi le premier. Hein.
Oui, Fabien aussi. Donc, d'abord, la parole à Hélène, si vous ne dérange pas, messieurs. Hélène, puis vous en pensez quoi? Sainte Hélène, vous en pensez quoi?
Alors, je suis sauf loin Napoléon. D'être une sainte dans aucun domaine et pas plus dans le domaine journalistique qu'un autre.
1m42 de sainteté.
C'est ça, les bras levés, je vous rappelle. faudrait reprendre point par point tout ce qu'a dit Fabien, mais grosso modo, les invitations dans des restaurants, moi je dis oui parce que les vins, ça se déguste quand même avec des plats et que c'est l'occasion de goûter une variété d'accords, mets et vins, d'échanger avec les vignerons et avec les confrères présents, ce qui est intéressant aussi. Bon, ça dépend des confrères, mais dans l'ensemble, on va dire, c'est intéressant.
Quelques noms de confrères pourris.
Mais je veux dire que si je reçois une bouteille à la maison, je vais pas faire 10 plats pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Je vais me dire normalement, ça va être ça. C'est moins riche. Donc l'invitation au restaurant.
Vous avez déjà refusé des cadeaux?
Refuser des cadeaux. Non, refuser 3 jours au ski pour aller voir si le champagne est meilleur en altitude.
Ouais,
oui,
ça
oui,
non,
oui.
Quoi. Voilà. Et vous, Philippe Orbach, alors vous n'êtes pas journaliste, Philippe, hein, mais différent. Vous connaissez bien le milieu des journalistes. Vous avez vous-même des journalistes qui viennent déjeuner ou dîner chez vous, je suppose. Hein.
Bien sûr.
Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'ils proposent de payer l'addition? Vous vous sentez obligé d'inviter? Après, il y a aussi le phénomène on devient pote, que dont parlait Fabien, parce que quand on est pote, c'est différent.
Exactement.
On est pote jusqu'où?
Il y a toutes les situations qui se présentent, finalement. Il y a des journalistes qui ne demandent rien à la fin du repas et on est un peu...
Ils vous remercient quand même.
Oui, de temps en temps. Mais c'est pas parce qu'ils payent ou ils payent pas qu'ils vont parler ou pas parler.
Ben c'est ça.
Général, ils font quand même leur métier. Quoi. Globalement, il y a quand même, même si l'attitude peut paraître pas tellement déontologique, le résultat final l'est. Ils peuvent se poser des questions, savoir est-ce que finalement je dois en parler ou pas parce que j'ai été invité ou pas invité. Mais in fine, il le fait ou il ne le fait pas.
David Hou, par exemple, quand, prenons le cas extrême. Quelqu'un vous invite dans un 3 étoiles Michelin, vous déjeunez, vous dînez, vous passez un super machin, vous avez des cadeaux, mais vous n'aimez pas le vin. Parce qu'il y a aussi un paramètre. Si vous aimez le vin...
Ben je n'en parle pas.
Voilà.
C'est ça.
Simplement.
Même si vous avez été invité.
Ben voilà. Le vin part pour lui-même. Donc, j'ai cité un exemple concret de pourquoi j'avais accepté un déjeuner. C'est parce que je voulais aller à la dégustation auparavant. En général, je vais à la dégustation. Je demande à ce que la dégustation soit organisée en amont du déjeuner et je pars avant le déjeuner, en général. Et je n'accepte ces situations que pour des groupes de gens, pas pour un seul domaine. Après, tous les cas de figure peuvent exister. J'ai eu un exemple d'un problème déontologique qui m'était posé. La seule fois où j'ai participé à l'élaboration de vin, c'était au Chili, pour un vin que j'ai fait avec un vigneron chilien, où j'ai participé largement à la conception de ce vin. Et j'ai même déposé la marque, j'ai dessiné l'étiquette et tout. Pendant tout le temps que ce vin existait, j'ai cessé cette activité il y a longtemps, je me suis interdit de parler de tous les vins chiliens.
Oui, voilà.
Après, voilà. Donc il faut quand même...
Allez.
Je suis d'accord avec Fabien pour participer à une réflexion sur ce sujet, que je trouve être un vrai sujet.
En tout cas, Fabien, très beau sujet, voilà, polémique. Il faudra brosser maintenant le palmarès, le top 10 des journalistes les plus pourris dans le vin, et puis le top 10 des plus honnêtes.
Il ne faut pas parler de pourris non plus.
Bah, est-ce qu'on va arriver à 10 en honnêtes? Non, je plaisante. Alors, merci en tout cas, Fabien. Indino Sud Radio retrouve maintenant Philippe Forbrach, propriétaire de ce fameux restaurant du Bistrot du Sommelier avec tous les journalistes qui viennent déjeuner, dîner en payant l'addition, boulevard Haussmann à Paris. Alors, vous amenez où aujourd'hui, mon cher Philippe? Il y a une charade aujourd'hui. Alors, mon premier n'est ni un roc, ni un cap, ni une péninsule. Évidemment, Cyrano n'est pas loin. Mon deuxième, ça pourrait être vous, Philippe Forbrach. Et mon troisième, c'est le grand ennemi de Pierre dans le conte musical de Prokofiev.
Alors, le premier tombe à pic. Le deuxième, on en a beaucoup autour de la table. Dessin.
Dessin.
Et quant au loup, effectivement.
Pic Saint-Loup, là.
Pas ça.
Waouh, ça a bossé, Charlotte, vite tout. Hein.
Alors. Exactement. Alors, c'est une jeune appellation, parce que pendant longtemps, c'était appellation Coteau du Languedoc, Languedoc, Pic Saint-Loup. Puis depuis 2017, ça y est, ils sont lâchés, ils ont levé les bras, n'est-ce pas?
Le loup est sorti de la bergerie.
Le loup est sorti de la bergerie.
C'est pour ça qu'elle est à faire un tour là-bas, d'ailleurs.
Des Capucins ou des autres. Et en 2017, ils ont droit à leur propre appellation. Alors, c'est un vignoble qui est situé dans l'Hérault, nord de Montpellier, sur les contreforts des Cévennes. Et on est entre le mont qui s'appelle également le Pic Saint-Loup, c'est le nom de la montagne qui surplombe cette appellation, et le mont, un autre mont qui s'appelle l'Ortus. Et entre Méditerranée et Cévennes, c'est vraiment la localisation. On est un peu en altitude, ce qui permet de compenser un peu la latitude et d'avoir des nuits plus fraîches, ce qui permet d'avoir des vins plus équilibrés. Les cépages utilisés sur ces géologies qui sont assez contrastées, balayées par le vent, le Mistral, la Tramontane, etc. notamment, et le marin aussi qui intervient malgré tout, même si on n'est pas tout à fait en bord de mer. Ce sont la Syrah, minimum 50%. Il fallait bien déterminer un peu un profil. Hein. Le Grenache, qui est le cépage, effectivement, le plus emblématique, en tout cas, de la partie sud, parce que la Syrah, on l'évoquait il y a un instant avec David, c'est plutôt un cépage du nord, de la vallée du Rhône, et là, il était invité dans le sud. Mais à une époque comme cépage améliorateur, aujourd'hui, il a trouvé un peu sa place, effectivement. Et puis, il y a du Mourvèdre, du Carignan, qui a tout à fait sa place, du Cinsault, et aussi de la Cunoise, et un cépage très rare qui s'appelle le Morastel, à ne pas confondre avec le Monastrel, qui est l'équivalent espagnol du Mourvèdre. Mais sans rentrer trop, mes petites pensées pour Pierre Gallet qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, effectivement, qui est un cépage rouge assez original qui vient maximum à 10%, hein, compléter un peu cet assemblage particulier. Ça donne quoi concrètement? Des vins qui sont assez cotés ces dernières années, c'est un peu parmi les références avec les vins des terrasses du Larzac, pas très loin, qui font partie des vins dont on parle et des appellations qui font monter un peu le niveau à la fois qualitatif, mais aussi le niveau moyen de vente des vins de la région, ce qui est plutôt pas mal.
C'est une très bonne chose pour les vignerons.
Ce sont des vins qui ont une vocation gastronomique. On peut faire de très jolis accords mets et vins.
Quelques vignerons peut-être, Philippe?
Avec ces vins. Et quelques vignerons pour conclure. Bergerie des Capucins, le château de Lascaux, le Clos des Augustins, le Clos Marie, vraiment magnifique. Domaine de l'Ortus, dont j'ai évoqué rapidement.
Qui a vraiment aidé à faire émerger cette appellation.
Exactement. Ou encore le Mas Foulaquier.
Merci beaucoup, Philippe Forbrach. Merci également à vous, Hélène Piau, David Kobold, Fabien Humbert et puis François François Bieber. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook. Invino, on se retrouve demain à 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous parlerons du domaine de la meunerie, du château L'Argilus du Roi à Bordeaux, sans oublier un zoom sur le vignoble de Brouilly. Nous serons dans le Beaujolais. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.